Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat consacré ce soir au modèle allemand. À l'ordre du jour ce soir, le modèle allemand est-il le modèle Merkel? Ce week-end, le premier parti d'Allemagne, la CDU, s'est élu un nouveau président, Armin Laschet, qui aura sûrement la volonté de succéder aux prochaines élections législatives de septembre à Angela Merkel. Celle-ci, au pouvoir depuis 15 ans, a en effet décidé de ne pas se représenter. C'est donc l'occasion de revenir dans cette émission sur ses années de pouvoir, depuis sa première investiture jusqu'à la crise du coronavirus, en passant par la crise de la dette en 2008, l'abandon du nucléaire, l'accueil surprise de centaines de milliers de réfugiés ou encore l'adoption du mariage homosexuel. Nous le ferons en compagnie de trois invités. Emmanuel Droit est historien, il est professeur d'histoire contemporaine à Sciences Po Strasbourg et ancien directeur adjoint du centre Marc Bloch à Berlin et auteur entre autres de 24 heures de la vie de la RDA paru en septembre dernier aux éditions des presses universitaires de France. Avec nous également Michel Wenachter. Bonsoir Michel Wenachter.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence en études germaniques contemporaines à l'université de Cergy et à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et vous êtes membre du comité de rédaction de la revue Allemagne d'aujourd'hui. Enfin, notre troisième invité, Éric-André Martin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire général du comité d'études des relations franco-allemandes de l'IFRI. Avec vous, nous allons tenter de voir, avec vous trois, justement, quel est le bilan de ces années Merkel en Allemagne à quelques mois de son départ du pouvoir.
Je jure de mettre tout mon pouvoir au service du peuple allemand afin d'augmenter son bien-être et le protéger de l'adversité. Je me soumets à la loi fondamentale que je respecterai et défendrai avec l'aide de Dieu.
D'ici 2022, nous allons progressivement renoncer à l'énergie nucléaire. Ce chemin est un grand défi pour l'Allemagne. Mais il représente aussi d'énormes possibilités pour les générations futures. Je ressens de la fierté et de la gratitude en voyant comment d'innombrables personnes en Allemagne réagissent à l'arrivée des réfugiés. Le nombre de ceux qui sont là aujourd'hui pour aider les réfugiés dépasse de très loin celui des fauteurs de troubles xénophobes.
Les scientifiques nous implorent de réduire drastiquement nos contacts pendant la semaine précédant Noël, avant que nous ne rencontrions nos familles. Alors nous devrions réfléchir si nous ne devrions pas faire débuter les vacances scolaires plus tôt. Que dira-t-on plus tard si nous n'avons même pas été capables de trouver une solution pour 3 jours ?
Quinze ans de pouvoir, donc, pour Angela Merkel, qui quittera ce pouvoir, donc, au moment des élections législatives prochaines, le 26 septembre, c'est la date de ces élections. Emmanuel Droit, bonsoir, vous êtes historien. Et vous êtes avec nous parce que ce qui est frappant dans cette façon de gouverner l'Allemagne, c'est la longévité des dirigeants. Adenauer, 16 ans ou 15 ans, je crois. Pour ce qui est d'Helmut Kohl, c'est 16 ans. Et pour ce qui est d'Angela Merkel, c'est 15 ans. On est toujours un peu étonné puisque généralement chez nous, eh bien, ça ne dépasse pas du temps où les septennats étaient des septennats 14 ans pour chacun des présidents qui nous a gouvernés. Là, effectivement, ce sont de très longues durées, ce qui permet aussi d'installer une politique dans la durée, mais qui est aussi très évolutive, Emmanuel Droit.
Oui, bonsoir. Et c'est vrai que c'est, je trouve que c'est intéressant de démarrer notre émission en tentant d'historiciser un petit peu Angela Merkel et en la comparant, alors pas à la France et au style monarchique et jacobin français, mais aussi à ses prédécesseurs. Et vous l'avez rappelé, elle rejoint finalement le binôme Adenauer et Kohl qui se caractérise par la longévité de leur mandat et à la fois elle les rejoint dans la durée et elle s'en distingue à mon avis par deux éléments. Le premier élément, c'est qu'elle va quitter le pouvoir sans être poussée vers la sortie, comme l'a été Adenauer en 1963, ou à l'issue d'une défaite électorale, comme ça a été le cas d'Helmut Kohl en 1998. Et donc, elle partage en fait cette capacité de résilience et d'adaptation à des contextes à la fois nationaux et internationaux qui ont beaucoup évolué, mais elle a choisi en fait sa date de sortie, si je puis m'exprimer ainsi, avec une popularité au zénith, alors que Helmut Kohl, au terme de ces 16 années, était plutôt caractérisé par une fatigue du pouvoir, et Schröder apparaissait comme quelqu'un de beaucoup plus dynamique et porteur d'une forme de modernisation de l'Allemagne qui, à l'époque, était présentée comme l'homme malade de l'Europe. Et puis surtout, Angela Merkel, elle a gouverné avec les sociaux-démocrates. Alors que Adenauer a dû gérer cette opposition, Kohl aussi, sur des questions fondamentales comme la question de la réunification ou de l'ancrage à l'Ouest, et pour Helmut Kohl également la question de la réunification. Angela Merkel, sur à peu près tous les dossiers, elle a réussi à créer du consensus, et je pense que ce qui explique sa longévité politique, en partie, c'est sa capacité à produire du consensus, à trouver des arrangements, et finalement à aborder les questions de fond de manière presque post-idéologique. On pourrait la qualifier finalement de chancelière très pragmatique et quasi post-idéologique.
Oui, et cela, effectivement, Michel Weihnachter, c'est une des particularités. On peut dire que d'une certaine manière, elle termine dans une bonne posture, puisque si elle avait terminé son mandat au début de l'année 2020, ça n'était peut-être pas si simple. Il y avait des tensions très importantes au sein de la grande coalition qu'elle dirige. Après la crise de la Covid, effectivement, et le coup de gueule qu'on a pu entendre tout à l'heure, effectivement, sur la nécessité de prendre des décisions beaucoup plus drastiques et plus unies sur l'ensemble du territoire allemand, par exemple, eh bien, elle apparaît comme assez forte, et avec effectivement cette impression de collégialité, de consensus dont parlait Emmanuel Droit, c'est-à-dire cette capacité à tenir ensemble des partis qui, a priori, sont opposés.
Oui, absolument. Juste une petite chose sur la longévité. Juste pour rappel, en fait, elle ne voulait pas faire de quatrième mandat. Oui. Elle a beaucoup hésité, elle a longtemps hésité. Et en fait, il y a deux choses qui ont joué évidemment dans sa réflexion. C'est d'abord que Trump était élu, et évidemment, enfin, il se déteste cordialement. Et là, c'était un motif pour elle, évidemment, aussi de défendre d'autres conception. Et la deuxième chose, c'était la montée en puissance aussi de l'AFD, du parti populiste d'extrême droite à ce moment-là. Donc la démocratie était un peu en danger, ce qui évidemment pour tout le monde et pour les Allemands en particulier est quelque chose d'extrêmement important. Donc elle a fini par se décider, mais elle aurait très bien pu s'arrêter aussi au bout de trois mandats très populaires aussi. L'autre élément évoqué par Emmanuel Droit, sur lequel on reviendra certainement à de multiples reprises, c'est qu'effectivement, quand on parle d'un bilan Merkel, là, il faut pas rester dans les catégories de pensée franco-française. C'est un régime parlementaire et non pas un régime présidentiel. Et en réalité, c'est un bilan collectif. Trois des quatre mandats qu'elle a effectués ont été en coalition avec le SPD, donc avec les sociaux-démocrates. Et le seul mandat où elle a été en coalition avec un allié qui peut paraître plus naturel, qui sont les libéraux du FDP, 2009-2013, en réalité, ce mandat a été moins fructueux. Et donc voilà, effectivement, c'est un bilan collectif. C'est lié au système que les Allemands se sont donné, donc avec un comme point déterminant les élections législatives, un Bundestag élu avec une répartition des sièges à la proportionnelle, cette nécessité de faire des coalitions. Dans les trois cas d'ailleurs, ça ne s'est pas fait exactement sous les mêmes auspices ni de la même façon, mais de fait, elle a gouverné pendant trois mandats sur quatre avec le SPD, et donc relativement au centre. Et effectivement, c'est une pragmatique, et par ses convictions elle-même, de toute façon, elle a énormément ramené la CDU au centre, ce qui a posé un certain nombre de questions et qui ont été tranchées également ce week-end lors du congrès de la CDU, puisque c'est finalement le plus merkelien de tous qui a été retenu. Mais le bilan est vraiment collectif, et les décisions, elles ont été prises ensemble. Énormément de décisions très importantes ont été prises collectivement.
Éric-André Martin, j'ai l'impression qu'en tant que secrétaire général du comité d'études des relations franco-allemandes de l'IFRI, vous êtes un tout petit peu moins, optimiste sur ce bilan Merkel que les deux précédents intervenants de cette discussion, et que vous pensez qu'effectivement, il faudrait peut-être rehausser le Gerhard Schröder, qui était peut-être un peu plus flamboyant que ne l'était Angela Merkel, qui n'était pas très aventureuse, c'est peut-être ce que vous pouvez lui reprocher, pour pouvoir justement dire qu'elle s'installait dans une continuité, qu'elle n'était pas responsable non plus de la flamboyance de l'Allemagne en point de vue économique, par exemple, et de la place qu'elle avait prise dans le monde pendant ces 15 années de mandat?
Bah écoutez, on a parlé de la longévité. Moi, j'ajouterais la question de la continuité, c'est-à-dire que durant les mandats successifs de Madame Merkel, on voit qu'elle a consolidé ou que s'est consolidé en Allemagne un fort consensus autour d'un certain nombre de principes en termes de politique économique, en termes de politique européenne. Donc l'ancrage européen reste une valeur essentielle à l'Allemagne. La coopération transatlantique, même si celle-ci a été un peu écornée par Trump, et aussi une ouverture en direction de la Chine. Ce qui moi, pour répondre à votre question, ce que je voulais souligner, c'est le fait que précisément dans tout ce temps qui a été passé, où effectivement le mot crise est un des termes dominants.
Crise de 2008, crise des réfugiés, crise du coronavirus, au moins trois très grandes crises qui ont émaillé justement ces mandats.
Oui, on pourrait même ajouter la crise liée à la guerre en Ukraine et l'annexion de la Crimée, etc. Donc on a, en fait, Madame Merkel a certes s'est fait imposer ses partenaires par, je dirais, les électeurs allemands. Elle a dû constituer des coalitions et faire au mieux avec eux, même si parfois c'était pas les partenaires qu'elle préférait. Mais elle a aussi été confrontée à une situation européenne et internationale extrêmement difficile. Alors c'est peut-être ce qui amoindrit l'image qu'elle va laisser, dans la mesure où la gestion de crise et la gestion jour le jour des affaires l'a largement emporté sur toute considération un peu plus visionnaire, ce que lui reproche un certain nombre de ses électeurs et un certain nombre de ses partenaires politiques, y compris au sein de la CDU. Et je pense que si on y reviendra tout à l'heure, un des points, il y a deux points, je pense, de débat au moins qu'on peut lever. Le premier, c'est paradoxalement la difficulté à avoir réglé la question de sa succession, qui peut poser un problème dans la campagne qui arrive. Et le deuxième point, c'est la question de repositionner l'Allemagne et son modèle dans un monde qui a considérablement changé au cours de ces années.
Emmanuel Droit, il y a quelque chose de très étonnant, c'est que elle a une énorme popularité, vous l'avez dit, encore, je crois, 73% d'opinion favorable dans l'opinion allemande au mois de novembre dernier dans les sondages. Et pourtant, c'est quelqu'un qui, et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle elle a une très grande popularité, vous allez nous le dire, qui a dépolitisé, selon vous, tous les enjeux, qui a fait de la gestion de crise, on l'a dit, des très grosses crises, et très peu de réformes profondes à vos yeux. Et donc, c'est une gestionnaire et c'est pas une visionnaire, comme le disait Éric-André Martin. Et malgré tout, est-ce que c'est pour ça qu'elle a gardé une opinion favorable, y compris à l'étranger, où elle représente pour beaucoup, effectivement, une très grande dirigeante?
Ce qui est quand même assez extraordinaire ou fascinant dans le personnage politique d'Angela Merkel, c'est son extraordinaire capacité de résilience, pardon, et j'allais dire d'adaptation à l'environnement national et international, puisque alors on lui reproche en effet un manque de courage politique, de réforme, mais si on se souvient bien de l'Angela Merkel de 2005, celle qui faisait campagne contre Gerhard Schröder et à qui on promettait une victoire éclatante aux législatives de 2005, elle était très offensive sur les réformes néolibérales, elle avait un programme très agressif, elle voulait moderniser l'Allemagne, et puis ce discours volontariste et idéologique, finalement, s'est traduit par une courte victoire électorale pour Madame Merkel, et donc la nécessité de composer une coalition, alors qu'on lui promettait, les sondages lui promettaient au début de la campagne une victoire très très large. Et donc, je pense que ça joue aussi dans cette expérience politique qu'elle a construite. Ma collègue l'a rappelé, en Allemagne, la politique, c'est d'abord un jeu collectif du fait du fonctionnement des institutions héritées de la République de Bonn. Et Madame Merkel, en fait, a d'abord et surtout par pragmatisme réagi à des crises D'abord dans la défense des intérêts allemands dans le cadre de la crise de 2008. Elle a réagi.
Oui, elle était quand même considérée comme Madame Nein. Elle disait non, effectivement, aux demandes des partenaires européens, et ça a été très mal vu à l'époque. Elle était très détestée par une partie, en particulier par une partie des pays de l'Europe du Sud, par exemple.
Oui, oui, même si c'était souvent Wolfgang Schäuble, son ministre des Finances,
qui
prenait pour elle, et que la France derrière était aussi exigeante dans le dossier grec, on l'oublie souvent. Mm-hmm. Mais la France a partagé la ligne allemande. Et elle est capable comme ça de s'adapter. Je pense à la catastrophe nucléaire au Japon de Fukushima, ou de réagir. Vous l'avez rappelé à une crise humanitaire de grande ampleur en 2015. Et donc elle a façonné par sa capacité à gérer les crises, finalement une image assez rassurante auprès de la population allemande, qu'il ne faut pas l'oublier, est une population, c'est un facteur qui me semble aussi important, c'est une société en voie de vieillissement, et qui, il ne faut pas l'oublier non plus, une société allemande qui a traversé ce court 20e siècle marqué par un certain nombre d'horreurs et de crimes de masse, et on a une société allemande qui globalement, c'était une regrettée politiste Anne-Marie Le Gloanec qui parlait de ça, une société un peu fatiguée par l'histoire et qui voudrait être une sorte de grande Suisse au milieu de l'Europe, c'est-à-dire pas trop de mise en avant, pas trop de responsabilité, on gère finalement sur la base d'un modèle socio-économique tourné vers l'export et le dynamisme commercial, une prospérité et on cherche finalement à maintenir et à défendre cette prospérité allemande. Et de ce point de vue-là, elle a globalement défendu les intérêts allemands jusqu'à cette volte-face même de l'automne dernier, quand il s'est agi de voter ce grand plan de relance pour l'Union européenne. C'était d'abord aussi pour défendre les intérêts commerciaux allemands.
Elle l'a rappelé, effectivement, et c'est rappelé dans l'article de Jean Quatremer de Libération, qui n'est pas tout à fait favorable, effectivement, à Angela Merkel pour ses positions européennes, disant qu'elle a été plus tirée ou poussée par ses partenaires que volontariste dans ce domaine-là. Ça vous énerve un peu, Michel Weinachter, d'entendre dire qu'elle n'a pas fait de grandes réformes?
Comment dire? On va essayer de faire la part des choses. L'Allemagne, en réalité, depuis l'arrivée d'Angela Merkel, a considérablement évolué et sur de très nombreux plans. Alors, on va peut-être essayer de distinguer.
Allez-y.
D'abord, sous Merkel, les Allemands ont vraiment essayé de relever un certain nombre de défis. Ils l'ont fait avec plus ou moins de bonheur, avec plus ou moins de rapidité, et collectivement, comme je le disais. Mais en fait, ils ont quand même eu à parachever le défi de la réunification, dont on pourra reparler. Là, les choses ont évidemment beaucoup, beaucoup évolué entre 2005 et aujourd'hui. La raison de l'agenda 2010 de Gerhard Schröder, c'était que l'Allemagne était au fond du trou avec 5 millions de chômeurs, rappelons-le, en 2003, après le coût exorbitant de la réunification et l'arrivée de la mondialisation. Et là, Schröder a dit, il va falloir qu'on se retrousse les manches parce que sinon ça va devenir dangereux, évidemment avec en fond la fin de la République de Weimar et où Hitler avait instrumentalisé la misère de 6 millions de chômeurs. Donc en fait l'enjeu était aussi de sauver la stabilité du système derrière. Ils ont également essayé de relever à leur manière le défi de la transition énergétique. Alors contrairement à ce qu'on dit très souvent en France, c'est pas du tout Angela Merkel qui l'a décidé en 2011 suite à Fukushima. C'est une décision qui a été prise avec une loi qui est entrée en vigueur en avril 2000 par la coalition Rouge-Verte, donc la coalition sociodémocrate verte, qui ont décidé la sortie du nucléaire en 2025. Donc finalement, le calendrier est annoncé, puis Merkel l'a un peu rallongé pour des raisons économiques. Et puis finalement, elle l'a raccourci simplement en 2011 et donc avec une sortie en 2022, ce qu'ils sont en train d'être en passe d'arriver à faire. Mais donc là aussi, grande continuité. Et enfin, de relever le défi et aussi de la crise migratoire. Donc il y a eu un certain nombre de défis qui les a amenés à prendre des tas de décisions et de voter énormément de lois qui ont fait quand même beaucoup évoluer les choses en Allemagne. Deuxièmement, ils ont, c'est vrai, géré les crises, et Merkel a souvent été plus en réaction qu'en action, mais ça a aussi finalement fait permettre d'avancer dans les crises. Quand on regarde les deux moments européens où elle a pour le moins temporisé la crise de 2008, finalement on en voit que l'Europe, au bout du compte, en est sortie renforcée avec des mécanismes de solidarité européens considérablement renforcés, même si tout ça est évidemment extrêmement douloureux, les mécanismes européens sont sortis renforcés. Pareil en 2020. Alors dans l'intérêt de l'Allemagne, hein, c'est bien clair.
Oui, c'est mais la mutualisation tout le temps,
des dettes, le fonds commun, le budget mutualisé, etc. Voilà, etc. Donc en fait, à travers les crises, c'est vrai qu'elle les a gérées, mais qu'en même temps, ça a souvent permis d'avancer les choses au plan européen. Et enfin, une dernière chose, au niveau intérieur. Je voudrais tout de même rappeler qu'il y a eu un certain nombre de vraies réformes qui ont une action transformatrice sur la société allemande. D'abord, elle a continué les réformes Schröder qui avaient été initiées. Hein, elle a gouverné avec le parti de Schröder suite à la défaite de Schröder en 2005. Ils ont continué les réformes économiques et sociales, de réformes du marché du travail, de réformes de l'ensemble des systèmes sociaux. Ensuite, il y a eu aussi des réformes plus d'ordre sociétal qui sont liées aussi bien sûr à l'économie, avec une politique familiale très nouvelle et en permanente évolution depuis, il faut dire, sur fond de situation démographique catastrophique, avec un vieillissement de la population très prononcé, donc avec une très forte revalorisation du rôle des femmes dans le monde du travail, un fort développement des possibilités de garde des enfants, etc., ce qu'on n'attendait pas forcément de la CDU, pas plus que le mariage pour tous, que Angela Merkel, en tout en disant qu'elle-même voterait contre, a fait voter en 2017, en laissant la liberté aux députés du Bundestag de voter tout à fait en conscience et qui est passé. En fait, elle accompagne aussi les évolutions qu'elle sent dans la société. Et juste encore deux ou trois
très
réformes.
Très brièvement, parce qu'il faut... Réformes.
Oui, tout à fait. Il y a eu la fin du service militaire obligatoire en 2011, et ça n'est pas rien non plus. Et puis, effectivement, l'introduction du SMIC généralisé, enfin, des vraies réformes.
Donc, le modèle allemand est-il le modèle Merkel? C'est la question que nous posons dans ce temps du débat, et on écoute un titre des Rolling Stones qui a permis son accession au pouvoir, même si elle n'était pas d'accord, si les Rolling Stones n'étaient pas d'accord pour l'utiliser, ce titre.
France Culture. Le temps du débat. Emmanuel Laurentin.
Tellement éloigné de l'image que l'on se fait d'Angela Merkel, cette chanson qui lui a pourtant servi ainsi qu'à ses équipes de campagne pour ses campagnes de 2004-2005. Les Stones n'étaient pas d'accord pour qu'elle puisse l'utiliser sans leur autorisation. Nous sommes en compagnie de Michel Venachter, qu'on vient d'entendre, donc maître de conférence en études germaniques, Emmanuel Droit, professeur d'histoire contemporaine à Sciences Po Strasbourg, et Éric-André Martin, secrétaire général du comité d'études des relations franco-allemandes de l'IFRI. La question que nous posons, c'est le modèle Merkel est-il le modèle allemand? C'est-à-dire cette prudence dont vous avez parlé, cette discrétion, cette collégialité, ce consensus, cette proximité, est-ce que, d'une certaine façon, elle a été assez importante, l'influence d'Angela Merkel, pour qu'elle puisse l'imposer à ses successeurs qui parviendront au pouvoir au mois de septembre prochain, Éric-André Martin?
Oui, alors, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, moi je résumerai le système Merkel pour faire bref et un peu à grand trait par trois éléments. Effectivement, on a déjà dit gouverner au centre, donc accompagner l'opinion, ne pas la devancer, laisser.
Ne pas aller plus vite qu'elle, ne pas aller plus vite que l'opinion publique, c'est ça.
C'est ça. Ne pas apparaître comme dangereuse vis-à-vis de ses adversaires, apparaître stratégiquement inoffensive.
Reprendre d'ailleurs ensuite, parfois les positions de ses adversaires dans une sorte de triangulation un peu subtile.
Exactement. Alors ça c'est un élément très important, et c'est aussi en direction d'un électorat clairement identifié, quitte à perdre, à accepter de perdre une partie des électeurs traditionnels de la CDU, plus conservateurs, ou choqués ou en désaccord avec la politique menée en matière d'immigration, et qui partent soit pour rejoindre l'AFD, soit pour s'abstenir. Deuxième élément qui me paraît très important, c'est que le fait qu'elle a quand même été trois fois dans une grande coalition. Donc elle a gouverné avec le SPD, ce qui lui donnait quand même une un matelas très confortable de député et qui l'a mis à l'abri de
renversement d'alliance
et des difficultés qu'ont pu connaître ses prédécesseurs, notamment Monsieur Kohl, avec des majorités très courtes, difficiles, où parfois ça joue à une voix près. Ensuite, il y a un autre élément, c'est le fait que l'Allemagne s'est progressivement, notamment à la suite de la crise de la zone euro suite des subprimes, s'est imposée progressivement comme une puissance dominante en Europe, c'était la puissance dominante en Europe, en raison de sa situation économique et financière. Donc c'est elle qui s'est imposée comme l'arbitre, qui donnait le la pour l'autorisation ou pas sur beaucoup de choses. Et donc la position de la chancelière s'est trouvée déterminante. Donc ça veut dire qu'avec une forte majorité au Bundestag, avec une grande ouverture sur des groupes sociaux qu'on a bien identifiés et en même temps une position économique et financière qui vous rendent incontournable, ça a généré un modèle. Maintenant, maintenant, là, je pense que la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que dans la perspective des élections fédérales de 2021, ce modèle est toujours viable ? Dans quelle mesure il est transmissible à son successeur, parce que finalement il y a eu des choses qui sont passées entre temps et qui font que la situation en 2021 et sur la mandature à venir risque d'être assez différente en Allemagne.
Oui, Emmanuel Droit, par exemple, la montée de l'AfD, donc l'extrême droite allemande, le fait que certaines sections à l'est, par exemple, dont vous êtes spécialiste, vous avez beaucoup travaillé sur la RDA et donc les régions qui ont été intégrées après la réunification dans l'Allemagne réunie. Ces régions-là, eh bien, on voit la droite de la CDU qui lorgne de plus en plus vers l'AfD et le potentiel pouvoir qu'elle pourrait avoir, pas simplement un pouvoir de nuisance, mais peut-être un pouvoir de gouvernement. Ça, c'est aussi à mettre peut-être dans la balance, mais de l'autre côté, de la part d'Angela Merkel, là, c'est quand même sous ses mandats que la CDU a eu cette concurrence de la part d'une extrême droite qui jusqu'alors avait été plus ou moins maintenue à une portion congrue.
Oui, parce que si le coup de la réunification à la fin des années 90 avait débouché sur un nombre important de chômeurs, ça a été rappelé par ma collègue, l'extrême droite n'avait pas d'espace politique en fait à la droite de la CDU. Ça restait des partis ultra minoritaires qui ponctuellement entraient dans des parlements régionaux. En décalant, comme ça a été le rappelé par Monsieur Martin, le centre de gravité de la CDU vers le centre, en affichant un profil social, on va dire cosmopolite et quasiment moderne, eh bien, elle a laissé un espace politique à la droite de la CDU. Et moi, ce qui me frappe, notamment dans une région comme la Thuringe, c'est la capacité de l'AfD, alors sur un discours croisant populisme, xénophobie, parfois instrumentalisation de l'héritage de la révolution pacifique de 1989, l'AfD réussit à repolitiser des électeurs, qui étaient sortis du jeu électoral, c'est-à-dire qui étaient tombés dans l'abstention. Et de ce point de vue-là, il y a des élections majeures. L'année 2021, c'est pas seulement une année
importante des régionales.
Sur le plan national, mais voilà, il y a des grandes
au
régionales.
Au printemps, là, bientôt.
Par des élections au printemps, dans le Bade-Wurtemberg, en Allemagne de l'Ouest, et puis à l'Est, à l'automne. Et évidemment, ça va être des élections aussi anticipées en Thuringe, parce qu'on va revoter en Thuringe. Mm-hmm. Et c'est bien la situation en Thuringe qui a coûté son poste, d'ailleurs, à celle qu'on présentait comme la dauphine de Madame Merkel. Donc c'est vrai que l'Est est devenu un espace politique sensible, et j'ai envie de dire plus que l'Est, en fait. Il y a une fracturation du territoire allemand. Prenez des espaces dans la Ruhr, par exemple, comme Gelsenkirchen, enfin des espaces désindustrialisés où l'AfD localement est capable de faire 15-20% des voix, comme aux européennes. Il y a un vrai problème politique de ce point de vue-là, et c'est vrai que le successeur de Madame Merkel, que ce soit Markus Söder ou Laschet ou un autre, il devra prendre à bras le corps ce problème politique.
Avec une question, Michel Benachter, c'est comment être fier d'être allemand sans justement rompre avec cet héritage de l'après-Seconde Guerre mondiale, qui a été aussi cet héritage de vouloir rompre des définitivement avec les aventures de la fin du 19e, que ce soit sous donc Guillaume II ou sous Hitler, bien évidemment, ces aventures guerrières. Comment être fier d'être dans ce pays, patriote? Est-ce que le patriotisme constitutionnel, si cher par exemple à des gens comme Habermas, c'est une solution justement pour pouvoir garder cette idée qu'on est un peu exceptionnel dans l'ensemble européen, mais que cette exceptionnalité ne conduit pas forcément à un nationalisme, disons, xénophobe?
Vaste question. On va essayer de répondre brièvement. D'abord, effectivement, c'est intéressant de constater, en forme de clin d'œil, bien sûr, que c'est sous Angela Merkel que les Allemands se sont de nouveau décrétés fiers d'être Allemands. C'était lors de la Coupe du Monde de 2006.
Absolument.
Voilà. Donc, c'était un événement où l'Allemagne était heureuse de présenter un visage cordial et convivial au monde. Sinon, effectivement, concernant la question du Verfassungspatriotismus de Habermas, hein, c'est quelque chose qui est toujours présent, effectivement, et qui explique beaucoup de choses dans les réactions allemandes. Alors, effectivement, après la tragédie et le bilan de la Seconde Guerre mondiale, de quoi être fier quand on est allemand? Alors, ils ont placé, finalement, comme vous le savez, leur fierté dans l'économie, dans la reconstruction économique, et puis aussi en se donnant
dans un certain pacifisme aussi, une volonté de ne pas s'aventurer dans des aventures extérieures. C'est d'ailleurs pour cela que la France tente de les pousser à venir s'installer auprès d'elle du côté de l'Afrique et du Sahel, et qu'il y a toujours un refus assez ferme de la part de l'Allemagne.
Oui, mais une véritable évolution depuis quelques années, notamment Ursula von der Leyen et quand elle était ministre de la Défense et Annegret Kramp-Karrenbauer dans le même sens, même si ça a des limites. Il y a une véritable évolution des Allemands parce qu'ils voient les dangers mondiaux, et surtout depuis Trump, ils voient bien que l'Amérique, en tout cas l'Amérique de Trump, n'était plus aussi fiable, et donc la nécessité pour les Européens de se prendre en main. Mais pour terminer sur la question de l'identité, peut-être qu'on pourrait aussi dire que, et ça c'est l'histoire allemande évidemment, qui est une histoire où la nation s'est créée beaucoup plus tard, l'identité allemande avant d'être nationale.
Oui, il faut rappeler que nous sommes au 150e anniversaire effectivement de ce qui s'est passé à Versailles avec Bismarck, et effectivement la création de l'Empire allemand, c'était exactement un jour comme aujourd'hui, c'était le 18 janvier 1871, même si ça n'a rien à voir avec l'histoire que nous sommes en train de raconter, Michel Benachter.
Oui, tout à fait. Et l'Allemagne telle qu'elle est aujourd'hui n'existe que depuis 1990, ce qui n'est rien dans une remise en perspective historique. Donc en fait, la fierté, elle est aussi, je veux dire, un Munichois est d'abord fier d'être Munichois, puis fier d'être Bavarois, puis effectivement fier d'être Allemand. Maintenant, effectivement, même si c'est toujours avec une volonté de ne jamais parler tout seul sur la scène internationale, mais accompagné des Français et des autres Européens. Et puis, ils se sentent aussi citoyens du monde. C'est l'une des sociétés les plus internationales qui existe. Il suffit de regarder les nouvelles allemandes tous les jours pour voir à quel point la dimension internationale est omniprésente.
Et Éric-André Martin, sur ce point justement de cet héritage, qui est aussi l'héritage effectivement de la prospérité allemande, de la place qui s'est faite à l'Allemagne, qui a été faite à l'Allemagne sous l'égide d'Angela Merkel, et de cette possible résurgence d'une fierté qui pourrait aller jusqu'à un patriotisme, et surtout au-delà du patriotisme, un certain nationalisme qui pourrait s'exacerber. Qu'est-ce que vous en pensez, Éric-André Martin ?
Écoutez, je pense que pour la majorité des Allemands, une très large majorité des Allemands, une très grande majorité de la classe politique allemande, l'avenir de l'Allemagne, il est dans l'avenir de l'Europe. Donc l'idée de vouloir prendre une voie particulière, s'émanciper de à la fois de la construction européenne ou de la palace dans la construction atlantique, c'est quelque chose qui aujourd'hui paraît hautement
improbable.
En revanche, c'est à quoi je faisais allusion tout à l'heure, c'est que ce qui s'est passé, notamment à la faveur de l'épidémie du coronavirus, mais aussi plus largement depuis l'élection de Donald Trump et le durcissement du pouvoir en Chine, on voit que les Allemands sont conscients que même si leur avenir est à l'intérieur d'une Europe plus qui les protègent, ils devront prendre des responsabilités plus importantes, que ce soit au sein de l'Europe ou que ce soit via l'Alliance Atlantique, pour pouvoir compenser un certain nombre de risques nouveaux, comme par exemple l'érosion du multilatéralisme, le retrait ou le désengagement américain d'un certain nombre de régions dans lesquelles ils étaient traditionnellement les gendarmes, et qui créent des vides eux-mêmes à l'origine de déstabilisation, qui amèneront les Européens à être beaucoup plus prudents. On voit aujourd'hui, pour citer un exemple, la question de la Syrie, mais on peut citer la Méditerranée orientale ou d'autres régions dans le voisinage de l'Europe, pour faire court, qui font que aujourd'hui les Européens vont être amenés à être beaucoup plus actifs, proactifs dans la gestion. Et là, c'est un vrai défi pour l'Allemagne, qui a laissé un peu s'éroder son outil militaire et n'a pas forcément conçu non plus des scénarios d'intervention lointains, par exemple dans la zone Indo-Pacifique, pour dire les choses de manière simple. Et donc là, il va falloir avancer La future administration allemande devra regarder ces choses-là de près, parce que les événements, sinon, risquent de devancer. Quand on a une économie d'exportation, on ne peut pas être insensible au problème de la liberté de circulation dans les mers, à la question de la piraterie, etc.
Emmanuel Droit, c'est d'ailleurs une autre question, et on va terminer avec vous sur ce point. C'est le rapport, évidemment, à l'amitié germano-américaine. Ce besoin d'Amérique qui a toujours été ressenti du côté de l'Allemagne, surtout donc après la fin de la Seconde Guerre mondiale par l'Allemagne de l'Ouest. Et cela, effectivement, c'est quelque chose de très important, puisque il va y avoir changement de pouvoir donc dès après-demain aux États-Unis, et que une des questions, c'est est-ce qu'on va avoir un grand allié à nouveau, alors que depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, ça n'était plus le cas pour Angela Merkel. Très brièvement sur ce point, vous avez une minute et demie pour nous répondre sur cette question-là.
C'est évident que au-delà du modèle Merkel, en termes de relations transatlantiques, il y a un modèle allemand qui est marqué par la continuité et l'inscription, évidemment, dans cette tradition d'alliance très forte avec les États-Unis, et que finalement la présidence Trump va être vue comme une sorte de parenthèse de l'histoire. Simplement, si Trump part, Joe Biden qui arrive, lui, il arrive dans un monde qui a complètement évolué depuis la présidence de Trump, avec un multilatéralisme libéral affaibli, une Chine qui monte en puissance, et c'est vrai que la question de la liberté de circulation des mers, qui a été rappelée par Monsieur Martin, est fondamentale. Et quand on a une puissance commerciale exportatrice comme l'Allemagne, et bien évidemment ces enjeux commerciaux et économiques, il va falloir les articuler à des enjeux géopolitiques plus forts, et c'est là évidemment où on en revient toujours à ce décalage entre ces enjeux globaux contemporains et puis une société allemande en voie de vieillissement qui est peut-être pas forcément la société la mieux à même d'affronter ces enjeux globaux contemporains.
Merci à tous les trois. Merci à Michel Venachter, donc maître de conférence en études germaniques à l'université de Cergy. À vous, Emmanuel Droit, professeur d'histoire contemporaine à la Sciences Po Strasbourg. Vous êtes auteur de 24 heures de la vie de la RDA aux presses universitaires de France et des polices politiques du Bloc de l'Est. C'était chez Gallimard. Et puis, merci à vous, Éric-André Martin, secrétaire général du comité d'études des relations franco-allemandes de l'IFRI. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Fanny Richer, Rémi Bay, Hugo Boursier et Iman Jean. Jérémy Kaufmann était avec nous à la technique, Alexandre Manzanares à la réalisation. Dans 3 minutes, ce sera Affaires culturelles, avec ce soir l'auteur et traducteur Olivier Cadio.